Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Agités du FLE. Les Agités du FLE, c'est le podcast qui associe théorie et pratique de classe de la communauté Agito. Alors aujourd'hui, pour présenter ce numéro avec moi, j'accueille Seb. Seb, ça va ?
Ça va bien, ça y est, je suis en vacances.
Ah yes, bonne nouvelle.
Je vais pouvoir jouer.
Et justement, on va un petit peu parler de ça dans le numéro d'aujourd'hui. Numéro au sommaire duquel nous allons avoir donc un dossier, comme d'habitude pour les Agités du FLE. Et ensuite, une petite rubrique pour aller plus loin, où on vous parlera de ressources supplémentaires pour approfondir un petit peu sur le thème dont nous allons parler aujourd'hui. Et justement, pour parler de ce thème, nous recevons aujourd'hui Alexis. Alexis, donc, qui est prof de français, qui enseigne en collège, donc prof de français certifié, puis qui s'est spécialisé dans le FLE FLS, mais qui est aussi blogueur et développeur de jeux vidéo, parce que c'est justement le thème de notre dossier aujourd'hui, le jeu vidéo. Alexis, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, tu peux peut-être nous dire un petit peu, déjà j'espère que j'ai pas oublié certaines choses dans ta présentation, et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu pourquoi tu as commencé à t'intéresser aux jeux vidéo, et notamment le lien un petit peu avec ton travail ?
Oui, non, la présentation était bien, succincte, juste. Comment je me suis intéressé à ça ? Ben, disons que je suis joueur depuis longtemps, depuis mon enfance, et en même temps j'avais aussi la passion... déjà dès mon enfance de la littérature, donc j'étais un gros lecteur et un gros joueur. Et en fait, avançant dans mes études, à un moment donné, au cours d'études de lettres modernes, j'ai fait un master, parce que la licence était très classique. Et avec le master, comme il y avait un mémoire à faire, j'ai commencé à m'intéresser vraiment là déjà à la réflexion, à l'articulation entre ces deux passions originelles, la littérature et le jeu vidéo. Le premier mémoire que j'avais fait, c'était plus sur comment adapter en fait une œuvre littéraire comme un roman en jeu vidéo, donc passer d'une narration linéaire à une narration éclatée avec une interaction de joueur-lecteur. Et puis dans mon deuxième mémoire en M2 lettres modernes, là j'avais continué ma réflexion sur le jeu vidéo, mais en m'intéressant à Wakfu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu en ligne, un peu un World of Warcraft, mais français, pour des ados, pré-ados. Et ce qui était intéressant, c'était d'étudier la place, en fait, plus précisément des fanfictions, donc des écrits de fans, de fiction, comment ces écrits s'inséraient dans la création Wakfu générale, puisque Wakfu, c'est un jeu, c'est un dessin animé, c'est des BD, un manga, enfin bref. C'est ce qu'on appelle un transmédia storytelling. C'est Henry Jenkins qui dit ça. Donc, c'est vraiment une création plurielle qui utilise tous les canaux, tous les médias, comme Star Wars, comme tout ça. Et du coup, ça m'intéressait de voir l'écrit de fiction, de fans, comment il s'est inséré dans ce grand tout. Donc, voilà, c'était déjà... avant le FLE, il y avait déjà ça. Et avec le FLE, en me spécialisant dans le FLE, j'ai voulu poursuivre cette réflexion et du coup, cette année, voilà, j'ai commencé un blog qui s'appelle fle.jeuxvideo.wordpress.com. Et l'idée, c'est en effet d'insérer le jeu vidéo au maximum dans ma pratique de classe pour voir un peu comment ça peut aider les élèves à apprendre des éléments de français, de langue, de culture, etc. Donc... voilà, c'est des choses que j'expérimente en classe. Et sur le blog, je fais un peu un compte-rendu en mettant des idées ou des séances toutes faites avec des publics aussi bien de première année que de deuxième année. Donc voilà, c'est la poursuite, en fait, tout ça, de deux vieilles passions qui ne m'ont jamais lâché et qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui.
D'accord, et qui vont continuer avec... Donc, notre dossier du jour, aujourd'hui, le jeu vidéo en classe de FLE. On passe tout de suite au dossier. Euh, Mais avant de commencer ce dossier, ou plutôt juste pour commencer ce dossier, avant la première question, une petite précision en fait, parce qu'on parle, donc on a dit jeux vidéo. On parle beaucoup ces derniers temps sur Internet, mais il y a pas mal d'écrits aussi sur tout ce qu'on appelle le serious gaming, donc tout ce qui est jeu sérieux, je pense que c'est le terme officiel en français. Je pense qu'il faut faire la distinction. Aujourd'hui, si j'ai bien compris Alexis, et d'après ce que je vois sur ton blog, on ne va pas vraiment parler de jeux sérieux, c'est-à-dire de jeux faits, didactisés en fait de base, mais plus de jeux vidéo, on va dire, grand public en général, que tu adaptes pour la classe avec des activités. C'est bien ça, hein?
Oui, c'est ça, tout à fait. Après, je peux parfois utiliser des jeux sérieux si je trouve qu'ils sont bien faits. Par exemple, récemment, j'avais fait une séance sur Sauvons le Louvre, qui était un serious game, je crois, créé par France Télévisions en lien avec un documentaire sur... je ne me rappelle plus du titre, mais c'est Illustre Inconnu, je crois. C'était un serious game qui était plutôt bien fait, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que les trois quarts du temps, je m'intéresse plus aux jeux vidéo qui ne sont pas du tout pensés pour l'enseignement, mais qui sont par contre riches pour nous, pour nos séances, pour nos séquences.
Ben justement, alors, c'était notre première question, un petit peu, pourquoi le jeu vidéo? Il y a déjà tellement d'autres supports, pourquoi le jeu vidéo?
Pourquoi le jeu vidéo? Bah parce que je pense, pour plusieurs raisons, une des raisons, c'est déjà l'attrait immédiat que ça a sur les élèves, c'est-à-dire que quand on leur montre un jeu vidéo, en général... Ils sont captivés, ils ont envie d'essayer, ils ont envie de rentrer dans cet univers. Donc déjà, ils sont séduits, on va dire, dès le début. Et après, l'avantage du jeu vidéo par rapport aux autres médias, ce qui est un peu sa spécificité, c'est que ça fonctionne constamment sur des retours. Donc on fait quelque chose, on a un retour, positif ou négatif. Donc ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec une vidéo ou un texte qui est un support finalement... d'une certaine manière déconnecté du lecteur. Là, on fait quelque chose, on avance, on touche à ça, etc. Il se passe des choses. Donc ça les fascine aussi. Et du coup, c'est aussi une porte ouverte aux expérimentations, aux tentatives, aux échecs, mais un échec qui n'est pas punitif, c'est un échec qui appelle à un autre essai. Donc c'est pour ces deux principales raisons, je pense, que j'ai choisi le jeu vidéo. C'est la capacité de séduire les élèves, et puis c'est ce qu'on appelle les feedbacks en anglais, constants, qui sont absolument précieux pour un professeur.
Ouais, et moi j'avais à peu près la même question, mais posée différemment, mais du coup elle peut faire suite à ta réponse. C'est puisque tu proposes d'exploiter le jeu vidéo, et j'ai trouvé qu'il y avait peu de choses, enfin que peu de profs avaient cette démarche-là. Pourquoi tu penses que le jeu vidéo est si peu exploité en cours?
Alors, je pense qu'il y a, pour plusieurs raisons, à mon avis, premièrement, il y a peut-être la crainte du coût. On se dit que ça va coûter cher, qu'il va falloir s'équiper en machine, qu'il va falloir acheter des jeux qui coûtent cher, etc. On peut très bien faire avec peu. Moi, j'ai très très peu de moyens dans mon collège. Donc, et pourtant, je fais des séances, des séquences basées sur les jeux. Donc, je pense qu'il y a peut-être un a priori comme ça sur le coût. Et puis après, peut-être aussi, on souffre encore peut-être pour certains profs d'un vieil a priori aussi sur l'idée que le jeu vidéo, finalement, bon, c'est du divertissement, point. C'est à la maison, c'est pour se détendre, c'est du jeu. Et c'est vrai qu'on sait qu'en France, le jeu est parfois mal vu, n'est pas... utilisé comme source d'enseignement, alors qu'au contraire, ça peut totalement être la base d'un bon enseignement. Donc, je pense qu'il y a cette vieille pensée qui est encore tenace, que voilà, c'est pas sérieux, quoi.
Ouais, et justement, tu parlais du matériel, il y avait sur Agito, donc Sophie et Lucille qui posaient à peu près cette même question. Quel est le matériel indispensable?
Alors, le matériel indispensable, moi, ce que j'ai vraiment pris indispensable par rapport à ce que je fais, c'est que j'ai un ordinateur portable. Alors, c'est le mien, mais après, le collège m'en a fourni un. Donc, je pourrais très bien utiliser celui du collège. Il faut un vidéoprojecteur ou un TNI pour projeter tout ça sur le tableau. Et après, moi, j'utilise un clavier et une souris sans fil parce que c'est plus facile pour faire circuler le, voilà, de, comment dire, ces commandes auprès des élèves. C'est vraiment, on va dire, la base. Voilà.
C'est le matériel ouais, nécessaire. Au minimum, il faut au moins avoir ça. Ouais,
pour donc le projet, sur ma liste à mon institution, j'ai plus qu'à éliminer la PS4, l'abonnement, etc. Quoi.
Pourquoi pas, ça peut être bien, mais non, en fait, il y a tellement de choses qui sont faisables avec un PC que voilà, souvent on se dit oh, il va falloir investir dans des consoles, des choses comme ça. Or, c'est vrai que la production de jeux vidéo, ça reste, les trois quarts de la production de jeux vidéo, ça reste pour PC. Donc finalement, avec un PC, bon, après ça dépend de la puissance du PC, mais déjà avec un PC, même moyen, on peut faire tourner beaucoup de choses. Et on peut s'amuser avec les élèves, donc pas besoin de, de sortir l'artillerie lourde.
D'accord. Alors justement, tu dis qu'on peut faire plein de choses. On peut travailler quels objectifs avec le jeu vidéo ?
Alors moi, chaque séance, on travaille les quatre compétences langagières. On fait toujours de la production écrite, production orale, compréhension écrite, compréhension orale. On travaille que ce soit de la, comment dire, des points vraiment enfin du lexique, de la grammaire. On peut travailler aussi un peu en transdisciplinarité des éléments d'histoire, un peu des éléments d'histoire des arts. On peut travailler aussi comment dire, de la littérature, des genres, des auteurs. Donc pour moi, on peut à peu près tout travailler, que ce soit un français basique, un français plus développé, de la littérature. Je pense que c'est un support pour à peu près tout ça. Ouais.
Ok, d'accord. Donc, un petit peu tous les objectifs, quoi, des objectifs très variés qu'on peut travailler. Et en termes d'activité exactement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, moi, j'aimerais notamment par rapport à l'aspect du temps disponible. Je ne sais pas si d'autres auditeurs sont un petit peu pareils. Je me dis que si avec le matériel qu'on a, la mise en place, etc. Quel type d'activité on peut faire et est-ce que ça ne prend pas trop de temps en fait, pour faire tout ça?
Alors, au niveau du temps, non, c'est comment dire, ça ne prend pas de temps que ça. Si on prépare bien, on va dire avant de recevoir les élèves, si on allume tout et qu'on est dans le jeu, il n'y a pas de souci. C'est pas... après, c'était la question, c'était les activités qu'on peut faire, c'est ça ?
Oui, pardon. Et après, donc, c'est vrai que je t'ai posé un petit peu de questions. et donc après, ouais, les activités, par exemple, est-ce que tu aurais quelques exemples d'activités qu'on peut faire ?
Alors, les exemples d'activités qu'on peut faire, il y a... alors, moi, ce que... comment dire ? On peut utiliser ça... Moi, j'utilise ça, par exemple, pour la découverte de lexique. Parce que du coup, comme il y a un support visuel, c'est toujours bon pour les élèves. Ça, dans leur apprentissage, ils vont associer un mot, on va dire une image, ce qui est un référent visuel, ce qui est positif. Par exemple, on avait récemment, on était sur le jeu Myst, je ne sais pas si vous connaissez, classique du jeu d'aventure. Et c'est vrai que se balader dans l'île de Myst, il y a plein de choses à observer, il y a plein de références... voilà, architectural, il y a tout un lexique de la mer, un lexique voilà, d'architecture un peu ancienne, intéressant à développer. Donc à chaque fois, on essaye de nommer, on essaye de comprendre ce que c'est, etc. Donc ça, c'est intéressant pour enrichir le lexique. On peut aussi réutiliser un lexique. Par exemple, j'avais utilisé un jeu qui s'appelait Where is Cat, qui est un petit jeu gratuit où, en fait, il faut à chaque fois chercher un petit chat qui est caché, etc. Et donc, du coup, ça nous permet de réutiliser ce qu'on avait vu préalablement sur les prépositions de lieu, à côté, à droite, etc. Le lexique de la maison. Ça, c'était plutôt... voilà, découvrir du lexique, réinvestir du lexique. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? On peut...
Tu avais un bel exemple sur ton blog avec les Sims.
Oui, oui, oui.
J'avais
oui.
beaucoup aimé, moi, ce billet.
C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est une des premières choses que j'ai faites, en effet, pour travailler la description physique. Donc, forcément, les adjectifs qualificatifs, le lexique du corps. J'avais utilisé les Sims et, en effet, j'avais beaucoup utilisé ça Au début, les élèves avaient en fait découvert un texte d'un personnage que j'avais imaginé, qui se présentait. Et donc, à partir de là, on avait ensuite découvert ce personnage dans les Sims. Donc, ils devaient observer un petit peu les différences entre le texte et l'image, s'il avait menti sur sa description. Et à partir de là, ensuite, on avait créé notre propre personnage. Donc, on peut manipuler à peu près tout dans les Sims avec comment dire, toutes les parties du corps, les yeux, le nez, le cou, etc. Et donc, ça permet de travailler voilà, sur vraiment tout ce... Comment dire, tous ces éléments de langue nécessaires pour une description physique, adjectifs, également adverbes, etc. Donc c'était vraiment, ça nous a permis de mettre un support concret, on va dire, à des mots comme ça qui peuvent paraître un peu abstraits pour certains au début.
Et justement, par rapport toutes ces activités qui font travailler le lexique, tu parlais de l'intérêt d'avoir un support imagé, d'avoir l'image. Est-ce que du fait, bon, dans les jeux vidéo, comme tu disais, il y a beaucoup de retours, il y a des interactions. Est-ce que, au-delà de l'image, je pense que du coup, les apprenants peuvent associer un mot à une image et aussi peut-être à une expérience, l'expérience qu'ils ont en classe, et aussi peut-être. Comme tu disais, on peut manipuler les objets. Alors, ça reste de la manipulation avec la souris, donc on ne peut pas trop parler des apprenants qui ont une mémoire plutôt... C'était comment déjà ? C'est les kinesthésiques, c'est ça, qui ont besoin de manipuler. Mais est-ce que, d'expérience en tout cas, tu dirais que les apprenants peut-être arrivent à mieux mémoriser que s'il y avait eu, par exemple, une image fixe, comme on est quand même beaucoup à utiliser, imprimée sur un papier, le fait qu'ils participent à quelque chose d'un petit peu différent, voire qu'ils aient à manipuler eux-mêmes et à créer. Est-ce que tu penses que ça améliore leur mémorisation et plus qu'au-delà de la mémorisation, peut-être une certaine maîtrise dans l'utilisation du lexique ?
Oui, je pense, parce que dans les recherches qu'on fait sur ce qu'on appelle la rétention mnésique, enfin voilà, l'apprentissage, la mémoire, plus il y a de référents et mieux c'est. Si on associe un mot à une image, à une expérience, à un son, etc., forcément ça va permettre de retenir plus facilement les mots. Et en effet, souvent les élèves après, ils me disaient, ah oui, dans les Sims, ils se rappelaient du nom du personnage.
Ouais, c'est ça.
Ils étaient en demande, ils disaient, mais alors. Qu'est-ce qui devient, etc. Donc voilà, c'était. J'aime bien aussi un peu jouer le jeu et faire semblant, inventer une espèce d'histoire autour de cette expérience. Je dis pas on va jouer à ça, je dis voilà, on va découvrir. Par exemple, sur Myst, on a un peu joué les reporters, on était en expédition sur cette île, donc on notait des choses et en même temps, on a beaucoup travaillé la déduction parce que cette île est bizarre, il y a à la fois des choses très anciennes et de la technologie. En même temps, c'est une île, mais il n'y a personne. Donc, on a beaucoup joué aussi sur les théories. Chacun avait sa théorie, pourquoi cette île était déserte. Et au fur et à mesure des éléments que je distillais auprès des élèves, en leur disant, voilà, en les amenant dans certains coins, ben, on découvrait d'autres éléments. Et les théories se complexifiaient. Donc, c'était très intéressant de voir une discussion nette vraiment entre eux. À propos de ce qui était arrivé. Donc, je pense que ça, c'est une expérience forte. Ce voyage sur cette île qui va en effet leur permettre peut-être de retenir, je pense, un lexique assez précis.
Et pour reprendre un petit peu la question de Fred, tu arrives à minuter plus ou moins précisément tes séquences comme ça ?
Plus ou moins précisément, oui. De toute façon, il faut jouer avant d'utiliser le jeu en classe pour déjà bien se rappeler ce qu'il faut faire. Et puis, j'ai aussi un système de sauvegarde pour aller directement là où je veux aller. Donc, par exemple, il y a un jeu que j'aime bien, ça s'appelle Scribble Notes Unlimited. Et c'est un jeu, en fait, où on a un petit garçon qui a un carnet magique. Quand on écrit un mot, ce mot prend forme, en fait, concrètement. Il est créé. Donc, on doit aider plein de gens qui ont des problèmes, quelqu'un qui a le chat qui est coincé dans l'arbre, ou un fermier qui veut faire gagner son cochon à un concours de ferme, etc. Et donc, à chaque fois, nous, on va créer des objets. Donc c'est super par rapport à voilà, l'écriture, à propos de l'orthographe. Euh, et, euh, Et du coup, c'est vrai qu'en général, j'ai un objectif sur mon... Quand je minute ma séance, je me dis, bon, bah, on va faire dans ce jeu telle épreuve et telle épreuve, on va passer tant de temps, et j'arrive à peu près à m'y tenir. Mais il faut vraiment qu'il y ait une préparation avant cela, avant la séance, vraiment qu'on ait fait le jeu, refait un petit peu, et qu'on ait des bonnes sauvegardes.
D'accord, donc ça, c'est un peu la suite, hein, ce que je voulais te poser comme question pour préparer ta séance de cours. Tu nous as dit, hein, le matériel est déjà prêt, et tu fais ton système de sauvegarde pour arriver à un endroit précis du jeu. Tu as d'autres conseils aussi à donner à des profs qui voudraient essayer de se lancer pour éviter, moi je me souviens des temps de chargement de fou de jeu, des choses comme ça, mais pour éviter les ratés de débutants un petit peu.
Ouais, bien sûr. Je pense qu'il faut. Certes, il faut déjà refaire le bout de jeu qu'on veut montrer aux élèves pour savoir où aller précisément, pour pas se tomber barbatude, ça marche pas. il faut des bonnes sauvegardes et puis il faut aussi tester tout ça avec le matériel qu'on a en classe. Parce que si on teste ça, par exemple, je sais pas, sur son ordinateur maison et ça fonctionne bien parce que. Voilà, c'est la configuration qu'on connaît, et puis en classe, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut tester en classe vraiment ce qu'on a fait, pour être sûr que ça va tourner, quoi. Mais en général, moi, de toute façon, je n'ai pas un PC très puissant, donc les jeux que je propose, ils tournent sur des PC vraiment, on va dire, d'entrée moyenne gamme, hein. C'est pas besoin d'avoir un PC de compétition pour que ça fonctionne, donc c'est un peu un point d'honneur que je fais, à utiliser des ressources... simple, on va dire, peu gourmande en ressources.
D'accord, et donc par rapport au fait que tu en as parlé un petit peu en introduction quand tu disais que les jeux vidéo avaient parfois, il y avait certains a priori, ces a priori pourraient éventuellement être partagés par nos apprenants. Comment tu fais ? Est-ce que c'est délicat en fait d'annoncer à ces apprenants qu'on va utiliser le jeu vidéo ? Est-ce que tu as déjà eu des en cours, je veux dire ? Est-ce que tu as déjà eu des réactions négatives et comment tu as réagi ? Quel conseil ou est-ce que tu aurais des précautions à nous donner ?
Alors non, jusqu'à présent, j'ai eu aucune réaction négative de la part des élèves, au contraire. Mais en général, comme je disais plutôt, je n'annonce pas, je ne dis pas, on va jouer. J'annonce toujours ça en essayant un petit peu de comment dire. Ce que certains théoriciens appellent création d'un cercle magique. Donc on fait comme si on allait découvrir un monde ou comme si on était plongé dans une histoire, etc. Et il y en a parfois, ils y croient à fond, ils me disent « mais ils existent vraiment, il existe vraiment ce personnage et tout, ça existe vraiment l'île de Myst ». Alors ça titille leur curiosité, quoi. Donc c'est jamais déconnecté, on va dire, de ma séquence. C'est toujours justifié. Parce que je pense que le risque, si on veut à tout prix forcer mettre un jeu pour faire du jeu, si c'est un peu gratuit, on va dire, ça peut surprendre peut-être les apprenants et les décevoir. Alors que si c'est une suite logique, on va dire, d'un enseignement, voilà, sur la description, c'est logique qu'on crée notre personnage pour continuer à maîtriser ses outils, ça les gêne pas du tout, au contraire. Mais je pense que il faut que ça soit motivé et que ce soit vraiment fictionalisé, quoi. Qu'on invente une petite histoire, un petit récit autour de ça. On ne dit pas on va faire un jeu vidéo, mais on annonce qu'on dessine notre cercle magique et on amène tout le monde dedans.
Et ton public, tu enseignes en collège, ils ont entre quoi, 11 ans et 15 ans, c'est ça ?
C'est ça, ça va de la 6e à 11 ans, jusqu'à même j'en ai qui ont quasiment 16 ans, 15-16 ans.
Et tu penses que les activités de jeux vidéo, ça pourrait fonctionner avec un public adulte ou plus jeune ? Ou c'est vraiment pour cette tranche d'âge-là que tu prévois de faire du jeu vidéo ?
Non, j'ai pas de public adulte, mais je pense que c'est faisable. Alors après... Par exemple, en lycée, je sais qu'il y a aussi des UPE2A en lycée, moins qu'en collège. Et là, on pourrait encore utiliser le jeu, mais peut-être plus difficilement, parce qu'il y a l'impératif du baccalauréat, par exemple, qui fait qu'on a peu de temps et, bon, voilà, du coup, peut-être moins de temps pour exploiter le jeu. Mais je pense que même pour un public adulte, c'est possible. Alors, peut-être pas les mêmes jeux, par contre, ou peut-être pas de la même manière. Mais il y a des jeux qui se prêtent très bien façon, le jeu vidéo, pour, enfin, majoritairement, c'est souvent une question de problème à résoudre. Donc, ça amène tout un processus de pensée, toute une réflexion, de la déduction, de l'hypothèse, etc. Et tout ça, c'est en général quelque chose qui fonctionne pour tous les âges, quoi. On a un problème, on veut le résoudre, on a un mystère, on essaye de dégager du sens par rapport à ça. Donc, je pense que ça peut fonctionner, mais probablement avec des jeux peut-être différents et, oui, une manière de les présenter un peu différente aussi.
Une petite aparté, le UPE2A, si tu peux rappeler ce que c'est ?
Alors oui, UPE2A, en fait, c'est... alors, là, vous me collez une colle, je ne pourrais pas précisément ce que ça veut dire, mais c'est, en fait, c'est un dispositif au sein du collège ou du lycée dans lequel vont les élèves allophones et... comment dire ? Et donc, ils sont, en fait, ils sont intégrés dans une classe, ils sont inscrits dans une classe tout à fait normalement, comme les autres, sauf qu'on les, comment dire, on dégage certaines heures de leur emploi du temps pour être voilà, avec le professeur de FLE, de FLS. Quoi.
D'accord, donc c'est les anciennes CLIS et CLIN qu'on pouvait avoir.
Voilà, exactement. Sauf que le principe est cette fois-ci un petit peu différent, parce qu'on essaie d'inclure en fait, au maximum l'élève d'abord, puis ensuite on le met dans ce dispositif. C'est-à-dire que c'est pas un système fermé, c'est un système, c'est juste un cours parmi l'emploi du temps. Mais on veut en premier inscrire l'élève dans une classe et ensuite lui donner plus ou moins de cours de français flux, quoi.
D'accord. Et tu penses que tous les jeux vidéo peuvent être des supports ou des ressources pour le cours ? Parce qu'il y a quand même des jeux qui sont pas top, quoi. est-ce que tu pourrais prendre, plutôt que n'importe quel jeu vidéo, n'importe quel type de jeu vidéo ?
Ah, alors non, je pense que tous les jeux ne se prêtent pas à ça. Parce que voilà, il y a certains jeux, je pense que l'intérêt pour un professeur serait minime. Mais alors dans les genres vraiment je trouve qu'ils se prêtent excellemment à ça, il y a ce qu'on appelle les point and click, c'est en fait des jeux d'aventure où on a une souris puis on clique sur l'environnement qu'on voit pour faire bouger notre personnage, pour le faire prendre un objet, le faire parler avec un autre personnage. Ça, je pense que c'est très intéressant et ça se prête très bien pour l'enseignement.
Donc là, comme exemple, on pourrait citer Myst, hein, dont tu parlais, et puis aussi tout ce qui est Monkey Island et compagnie.
Mm-hmm. Ah oui, pour traiter, on peut traiter en parallèle avec des collégiens que tout le récit d'aventure et les pirates avec Monkey Island, et puis en plus, il y a une dimension intéressante, c'est la dimension de la parodie, puisque Gilbrush, le personnage principal, est un peu un pirate raté, on va dire. Donc là, on peut traiter de deux choses intéressantes. Donc en effet, le jeu d'aventure comme ça, je pense aussi au Chevalier de Baphomet, je ne sais pas si vous le connaissez,
ouais.
qui est une série d'aventures très intéressante, parce que ça se base en plus sur des mythes, donc les boucliers de Quetzalcoatl, etc., donc des mythes incas, des mythes divers et variés, donc c'est toujours intéressant aussi, ça permet de faire un travail de recherche avec les élèves sur qu'est-ce qu'un mythe, comment rechercher et couper des informations, etc. Donc oui, le jeu d'aventure, moi après c'est vrai que c'est aussi une disposition personnelle, j'aime beaucoup ce genre de jeu d'aventure, jeu de point and click, mais après voilà, on peut trouver des choses, je pense par exemple à Soldats Inconnus, qui est un jeu sur la Première Guerre mondiale, c'est un petit peu de l'énigme, mais c'est plus ou moins de la plateforme, action, mais voilà, ça se prête aussi très bien, si on cible bien certains moments, ça peut être très intéressant. Après, voilà, par exemple, sur des jeux, ce qu'on appelle les FPS, les first-person shooters, j'ai un petit peu de doute sur leur utilité, mais voilà, après, il y a par exemple, je pense qu'il est très populaire les jeux de plateforme, on peut trouver beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a certains jeux qui permettent d'aborder l'histoire des arts, qui jouent beaucoup sur des esthétiques intéressantes. Donc, tous les jeux, non, tous les types de jeux, certes, certainement pas, mais ça peut être du jeu d'aventure, ça peut être du jeu de gestion. J'ai vu des gens qui ont fait des choses très intéressantes avec des jeux de gestion, des SimCity, par exemple.
SimCity, ouais. A Train, etc. Quoi, je sais pas si ça existe encore, A Train.
Ouais, non, c'est voilà, ce genre de jeu fonctionne bien. Voilà, des jeux de simulation comme les Sims, ça fonctionne très bien. Et puis après, c'est vrai que dans le jeu vidéo, il y a des jeux qui sont... Enfin, de plus en plus, on a des choses un peu hybrides. Donc, ça emprunte un peu à tous les genres. C'est un peu difficile à définir, mais c'est... Ouais. Je pense que la plupart des jeux s'y prêtent, mais après, voilà, il y a certains jeux. Bon, Call of Duty, je pense, ça va être compliqué.
Ok, donc on a une grande panoplie de jeux à notre disposition. Et tu nous as parlé de quelques activités. Mais il me semble que dans un peu toutes les activités que tu nous as données, tu te sers du jeu vidéo comme support, hein, un petit peu comme... même pas un petit peu, en tant que document déclencheur ou alors pour faire tes activités. Est-ce que tu utilises un petit peu aussi le jeu vidéo en tant que fin en soi?
Alors oui, là en ce moment je suis en train de d'écrire justement un article qui donc une séance que je vais je pense à la rentrée mettre en place qui où le jeu vidéo est une fin en soi. On va créer en fait avec les élèves un jeu. Mmh. Alors un jeu vidéo textuel parce qu'il y a un logiciel qui s'appelle Twine. Je sais pas si vous connaissez peut-être.
On en a déjà parlé dans le podcast du jeu, non? Je crois, avec Seb, ensemble.
Ouais, exactement. Mais tu peux toujours rappeler ce que c'est, ça fera pas de mal.
Oui, vas-y, oui.
Alors oui, c'est un logiciel gratuit, open source, donc ça c'est bien. Voilà, au niveau du coût, c'est zéro. Ça fonctionne sur PC et sur Mac, c'est absolument pas gourmand en ressources, et ça permet de créer des histoires en branchement, un peu dans le style livre dont vous êtes le héros. Donc, on a plusieurs choix, on choisit différents choix, et donc, du coup, l'histoire va s'adapter aux choix qu'on a fait. Et je suis en train de, avec mes collégiens, on va d'abord étudier le conte, avec un conte, le petit chaperon rouge de Perrault. Et à partir de là, on va analyser un peu le texte pour dégager tout ce qui est le schéma narratif, donc la structure, la situation initiale, éléments perturbateurs, etc. Et le schéma actantiel, donc le héros, la quête, les adjuvants, les opposants, etc. Donc on va travailler tout ça, et après on va le réinvestir dans une sorte d'atelier d'écriture, mais via le jeu vidéo, puisque Twine va nous servir à créer notre propre conte, en réutilisant les archétypes qu'on a vus, et puis en essayant d'imaginer un rebondissement, une situation initiale, etc. Donc... Là, pour le coup, le jeu vidéo sera en effet une fin en soi. Ouais.
D'accord, super. C'est vrai que le conte, en plus, c'est une activité, étudier la structure du conte, qu'on revoit assez souvent dans les méthodes de FLE, et généralement, tout ça est réemployé dans une tâche finale qui est écrivez un conte peut-être de votre culture, etc. Là, ça donne une autre dimension, et en plus, j'imagine que tu les fais un petit peu collaborer, il n'y a qu'une seule histoire qui est créée, ou il y a plusieurs petites histoires qui vont être créées, tu as déjà un peu prévu par rapport à ça?
Oui, alors en fait, ils vont être par groupe de trois, et idéalement, j'aimerais bien diviser la tâche au sein du groupe avec un qui est plus chargé, on va dire, des personnages, l'autre qui est plus chargé de l'histoire, on va dire, un peu, on va dire, le canevas, et puis après, un troisième qui est un peu là pour coordonner, on va dire, tout ça, c'est-à-dire voir si ça correspond bien, faire un peu le lien entre les deux. Et du coup, ensuite, collectivement, ils vont se séparer la tâche finale, vraiment de rédaction. Mais que dans la conception, ça soit un petit peu divisé entre le trio. Et puis après, là, ils écrivent tout ça ensemble, collectivement. Ouais. Mais l'idée, en effet, c'est qu'après, chaque groupe présente son histoire et que chaque groupe joue l'histoire d'un autre.
Voilà. D'un autre, ok. Ah. Tu as prévu dans la séquence.
Exactement.
Et je sais qu'il existe un peu aussi l'équivalent, mais pour des audiobooks un petit peu. Donc c'est en fait créer une fiction interactive, donc avec des choix, mais cette fois en audio. Et je me souviens qu'il y avait un outil, alors j'arrive plus à retrouver ce que c'était, mais c'est pareil, une histoire à branche où on choisit les différentes options et on enregistre les dialogues. Et il y a toute une banque de sons disponible pour pouvoir illustrer un petit peu les dialogues, etc., puis l'ambiance sonore. Et on peut créer comme ça son jeu interactif, littéraire, mais cette fois en audio. Faudra que je retrouve le lien d'ailleurs pour le donner dans les notes de l'émission.
Sur Twine, je rajoute juste, c'est vrai que c'est textuel, mais on peut aussi rajouter du son et on peut rajouter de l'image aussi. ce n'est pas que textuel. Donc moi j'ai vu des twines qui ont été faites où voilà, on avait mis une petite image d'illustration à chaque fois, voire une musique. Donc ça peut aussi être un travail à faire, peut-être en collège en tout cas avec le professeur d'art plastique. On peut aussi essayer de travailler justement sur ça avec lui pour que les élèves participent aussi à l'illustration de leur propre compte, quoi. Ça peut être une idée.
Ouais, on va passer peut-être aux questions des auditeurs, puisqu'on avait quelques questions de Sophie et Lucille. Il y a deux questions de Sophie auxquelles, à mon avis, on n'a pas répondu encore. La première, c'était est-ce que tu penses qu'il faut être un passionné de jeux vidéo pour pouvoir l'utiliser en classe ? Et la deuxième, ça concernait un peu le nombre d'apprenants et la longueur alors des activités. Donc, avec combien d'apprenants maximum on peut mettre en place des activités qui utilisent le jeu vidéo, et puis combien de temps est-ce qu'on peut les faire durer ? Est-ce que ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines ?
Okay, alors, la première question, c'est être un fanat, c'est ça le jeu vidéo ?
Elle a dit passionné.
Un passionné. Non, après, il faut juste pas être réticent par rapport à l'idée d'utiliser le jeu vidéo. Il y a des gens pour qui c'est absolument impensable, donc si vous êtes allergique, non. Mais après, voilà, il y a pas du tout être obligé d'être un passionné, puisqu'en fait on va les jeux que j'utilise, ce n'est jamais des jeux on va dire qui demandent une dextérité énorme. C'est souvent, l'interface est très simple, c'est cliquer pour amener le personnage sur un niveau de, on va dire, de la carte, ou cliquer sur un objet. Donc c'est toujours très très simple, il y a pas de challenge, on va dire, où il faut avoir vraiment, voilà, une dextérité énorme. Donc c'est totalement gérable. Il faut juste être un peu curieux. Et du coup, moi, je propose pas mal de jeux très variés et avec des moments très ciblés pour justement que vous puissiez aller directement là où ça vous intéresse. Donc non, il faut juste être curieux, en fait. Pour l'exploitation sur la durée, oui, on peut. Moi, en général, ça peut durer plusieurs semaines, ma séquence. Après, bien sûr, je ne vais pas utiliser que le jeu, mais le jeu va être un peu central. On va souvent y revenir. Voilà, sur l'île de Myst, par exemple, on est revenu plusieurs fois, mais en prolongement de tout ça, on a pu travailler pas mal de choses. Donc oui, on peut l'exploiter sur une séance, ça peut prendre, je sais pas, 5, 10, 15, 30 minutes. Et puis en même temps, on peut le réutiliser à plusieurs moments, parce qu'à chaque fois, on fait évoluer les connaissances et les compétences des élèves, donc on peut revenir dans le jeu pour faire d'autres choses. Donc oui, ça, on peut l'utiliser sur la durée.
Et avec combien d'apprenants, ouais, parce que sur l'exemple de Myst, par exemple, tu faisais ça avec combien de personnes ?
Alors en fait, avec le groupe entier, donc ça peut être un groupe de 10, 15, voire... en fait, je me suis pas mal moins inspiré, j'en avais parlé sur le blog, d'un professeur américain qui, lui, utilise Myst au collège aux États-Unis, et il utilise ça avec sa classe, donc ils sont 30, 35, je sais pas. Ils utilisent ça collectivement, ils jouent le jeu, ils plongent un peu la salle dans le noir, et c'est lui qui a le clavier et la souris, mais les élèves le guident, font des interprétations, etc. Donc il fait ça vraiment avec une classe, ouais, assez pas mal fournie en élèves. Donc je pense qu'au niveau du nombre, on peut, ça peut être individualisé jusqu'à, en effet, une classe entière, quoi.
D'accord, et donc toujours pas de nécessité d'avoir beaucoup de matériel, parce que ça, c'était un petit peu la question de Lucille, hein, qui demandait comment je peux justifier l'achat de matériel à mon école. Finalement, il n'y a pas beaucoup à acheter, quoi.
Non, on peut... Alors, comme je disais, voilà, si vous avez un ordinateur et qui est connecté à un TNI ou un vidéoprojecteur, c'est suffisant, avec, voilà, clavier et souris, c'est tout. Voilà. Et après, il y a des, même en termes d'achat de jeux, il y a beaucoup de jeux gratuits. Ah, mais en tout cas, en termes de matériel, c'est vraiment pas grand-chose. Après, bien sûr, parce que je pense que certains pensent qu'il faut acheter 20 tablettes ou avoir...
C'est ça, ouais. C'est la question des tablettes qui revenait. Mais finalement, un petit peu, les jeux dont tu parles, est-ce qu'il y a beaucoup de jeux sur tablette qui se prêtent à une exploitation en classe ? Ça pourrait être une question.
Alors, oui, il y a des choses. Moi, j'ai utilisé la tablette parce que j'ai une tablette personnelle, donc je l'avais utilisée pour, on va dire, évaluer mes élèves en tout début d'année, donc sur la numération, sur voilà, des choses comme ça. Mais on peut l'utiliser de manière individuelle. Après, je sais que avec certaines tablettes, on peut les relier au vidéoprojecteur, donc c'est aussi un moyen, comme l'ordinateur, on projette la tablette sur le tableau, et puis après, voilà, on manipule un peu tout ça, donc il y a des possibilités. Pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé vraiment ça, puisque je n'ai pas encore l'adaptateur pour ma tablette, mais rien qu'avec un PC, pardon, on peut faire déjà beaucoup.
Ouais, la question de Lucille, c'était j'ai pu avoir des tablettes à disposition, Internet ne fonctionnait pas, ou alors on en avait 5 pour 20 élèves. Ouais, c'est un peu pour aller dans le sens de ce que tu dis. Je dirais que plus vous multipliez le matériel dans vos classes, plus vous multipliez les risques de problèmes techniques. Hein.
Ouais.
Bien sûr.
Avec Internet qui ralentit, etc.
Voilà, oui. Mais après, voilà, on peut créer des groupes pour travailler à trois sur une tablette, mais c'est vrai que moi, les trois quarts du temps, c'est projeté sur l'écran. Et puis, voilà, je peux faire tourner les commandes ou c'est moi qui gère, mais j'ai très peu de matériel finalement. Et oui, c'est vrai que dès qu'on utilise Internet, il y a le risque en effet que ça soit un peu cut.
Bon bah, je crois que c'était tout pour les questions de nos auditeurs. Je vous propose de passer à la rubrique pour aller plus loin.
Alors, dans cette rubrique pour aller plus loin, moi j'avais envie de vous parler de Tisman. Tisman, c'est un prof qui a un blog qui est très très actif, et il avait créé un billet de blog sur GDevApp qui permet de créer des jeux vidéo pour le web, iPad ou Android, sans savoir coder. Donc on rejoint un petit peu ce que tu disais dans la création de jeux vidéo, Alexis. Et là, l'outil qu'il nous présente, c'est vraiment pas mal. Alors, on a l'impression quand même que c'est plus pour créer des jeux de plateforme, mais on passe par toutes les étapes pour avoir un jeu vidéo jouable à la fois sur un navigateur ou sur iPad et Android. Alors, sur iPad, je sais pas trop comment ça se passe après pour y avoir accès. Sur Android, j'imagine que c'est plus simple. Lui-même dit qu'il a testé sur Android, mais qu'il a pas vraiment testé sur iPad. Donc je vous mettrai le lien vers le billet de Tisman si vous voulez voir un peu comment fonctionne cet outil qui s'appelle GDevApp. Alexis, tu voulais nous présenter une ressource ?
Oui. Alors, pour faire suite un peu à la question du matériel, donc pour ce qui est des jeux, on va dire, parce qu'il peut y avoir peut-être une appréhension sur le coût des jeux. Alors pour l'instant, j'ai utilisé, c'est vrai, des jeux payants, mais alors la plupart du temps, moi, je vais les chercher sur Steam. Steam, c'est un site, on va dire, où on peut acheter des jeux dématérialisés. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des promos, on va dire, régulières. Donc les jeux peuvent très bien être fournis, enfin trouvables à vraiment pas cher, quoi. Donc ça, c'est une première ressource pour des gros jeux, on va dire, où il y a des jeux un peu connus. Après, il y a le site, c'est OujeVipo, alors OujeVipo.fr. L'OujeVipo, en fait, c'est plein de petits jeux, voilà, en général assez courts, donc ce qui se prête parfaitement à des séances. Et il y a de tout, il y a des jeux un peu un peu expérimentaux, un peu d'aventure, etc. Et là, tout est gratuit. Ça peut être joué sur PC, ça peut être joué par par internet, donc OujeVipo, c'est vraiment une bonne ressource très intéressante pour trouver des jeux gratuits. Et puis oui, voilà, une autre source avant que j'oublie pas, c'est le site Abandonware. Abandonware-france.org. Alors là, c'est tous des vieux jeux en fait qui sont libres de droit, voilà. Donc des jeux connus, hein, qui ont eu leur succès à une époque, et puis qui ne sont plus exploités commercialement, donc ils sont téléchargeables, et on peut y jouer gratuitement. Et en plus, il y a sur le site, si vous y allez, il y a dans la rubrique, dans la colonne à gauche, Il y a Abandonware facile, où il y a des jeux qui ont été vraiment pensés pour être lancés très facilement, même sur des Windows actuels. Et là, il y a vraiment voilà, des grands jeux d'aventure, des choses très très intéressantes. Donc là, c'est vraiment deux grosses ressources. C'est du gratuit, les deux. Voilà.
Ouais, pour rebondir un peu sur sur Steam, il y a aussi une initiative qui s'appelle Humble Bundle, qui propose alors en général des jeux, alors parfois sur mobile, parfois sur PC. Ils font aussi quelques BD. Il y a tout un tas de trucs. Alors l'avantage du Humble Bundle, c'est que c'est vous qui fixez le prix du bundle que vous voulez acheter. Alors après, vous pouvez passer différents paliers et avoir des bonus en plus, comme des jeux supplémentaires, les musiques des jeux, etc. Mais surtout, eh bien, vous pouvez décider de ce qui va à Humble Bundle, de ce qui va au développeur, et puis aussi d'une somme qui est reversée à une œuvre de charité, en général pour les enfants. Donc, c'est une bonne façon de joindre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire de subventionner une organisation caritative, et puis en même temps de se faire plaisir en se téléchargeant des jeux. Et souvent, ils sont disponibles sur Steam après. Donc on reçoit la petite clé Steam, et quand on va sur son compte Steam, on peut y jouer.
C'est vrai.
Alors toujours dans la rubrique pour aller plus loin, je vais parler des amis de eTeachers, qui ont fait un épisode qui s'appelait Gamers, justement. Et c'était l'épisode 42 de eTeachers, avec deux expériences de prof, deux expériences un peu différentes de ce que toi tu fais, Alexis, puisque eux ils ont téléphoné, eux ils ont essayé de parler de Minecraft en classe, donc l'utilisation qu'on peut faire de Minecraft. Et puis l'autre prof, donc c'était Stéphane et Jean-Noël lui parlait de Classcraft, qui était un peu une façon de gamifier sa classe en donnant des objectifs qui permettaient d'obtenir des bonus, de passer des niveaux, etc. Il vous en parle très bien dans cet épisode 42 que je vous recommande d'écouter. C'était vraiment vraiment sympa de les écouter parler de leur expérience de Minecraft, avec des créations de décors à partir de descriptions, des choses comme ça. Et puis donc Classcraft, comment motiver ses élèves avec des objectifs de jeu. Alexis, tu avais une autre ressource à nous recommander ?
Alors oui, c'est une série. Donc, par contre, c'est uniquement en anglais, mais bon, je la donne quand même. Alors peut-être faudra que je donne le lien pour le site du podcast, parce que le site web est un peu compliqué.
Ouais, bon, on mettra tout ça dans les notes de l'émission et sur le billet du podcast.
En tout cas, ça c'est comment dire, c'est un collectif de professeurs américains. Qui s'appelle GAME, donc Gamers Advancing Meaningful Education. Et donc, ils font régulièrement en fait des podcasts, mais vidéos. Je pense qu'ils utilisent Hangouts de Gmail. Et donc, ils parlent de sujets très précis, donc l'utilisation, par exemple, de World of Warcraft en classe, l'utilisation de Minecraft, l'utilisation de différents jeux comme ça. Et à chaque fois, il y a un intervenant principal qui évoque... Tout ça, c'est très très intéressant, c'est très riche, on apprend plein de choses. Et voilà, ça c'est vraiment une bonne ressource, donc c'est sur YouTube, on peut trouver ça. Et puis, oui, voilà, c'est à peu près tout. Après, il y a pas mal de livres sur la gamification, en anglais malheureusement, pas grand chose qui a été traduit en français. Donc il y a des gens comme Karl Kapp, qui a fait pas mal de livres intéressants, ou Gabe Zickerman aussi. Voilà. Donc c'est chercher un peu du côté de la gamification sur Amazon par exemple, et vous allez voir, il y a pas mal d'essais intéressants là-dessus. Ouais.
Ok, et pour terminer, Fred, un petit outil de derrière les fagots ?
Ouais, c'est tout à l'heure quand Alexis a parlé de Twine, ça m'a refait penser. J'ai eu du mal à retrouver le lien tellement ça fait un moment que je l'avais trouvé. Si vous voulez, c'est pas sur le jeu direct, c'était par rapport au projet d'Alexis, donc de faire écrire un conte, d'utiliser le jeu vidéo, c'est-à-dire de faire écrire une histoire à embranchement. Donc selon les choix que vous faites, vous allez évoluer dans l'histoire de manière un petit peu différente. Il y a une autre app, quoi, il y a un autre logiciel que Twine, qui pour le coup est une web app, donc on en parle assez souvent, c'est-à-dire c'est un logiciel qui tourne directement dans vos navigateurs. et qui est assez bien faite et au niveau de l'interface qui est assez agréable. Donc il n'y a pas trop, je pense, d'explications, même si c'est en anglais pour les apprenants. Ça s'appelle InkleWriter. On mettra le lien là aussi dans les notes de l'émission. Et en fait, c'est très facile de rentrer dedans parce que quand vous commencez une histoire, on vous demande, vous avez un premier paragraphe, on disait ben, commencez votre histoire. On écrit une phrase et puis après, on peut poser une question. Donc on pose la question et puis on propose par exemple deux réponses et on écrit deux réponses possibles et en fait ça, tout se fait étape par étape comme ça et avec en créant un compte rapidement, c'est gratuit, hein. En créant un compte rapidement on peut créer une histoire et la sauvegarder, l'avoir toujours à disposition. Je ne l'ai pas testé sur tablette mais je pense que ça va être accessible en tant que web app depuis un navigateur même sur tablette. Voilà, donc je mettrai le lien dans les ressources de l'émission, c'est assez sympa. Moi, je l'ai de côté depuis vraiment des années, je crois au moins 2 ou 3 ans. Et je ne l'ai toujours pas utilisé. Donc, ce qu'a dit Alexis m'y a fait penser. Si quelqu'un a eu l'occasion d'utiliser, je pense qu'il y a de super choses à faire.
Ok.
Bien, bah on arrive à la fin de cet épisode. Merci Fred, merci Alexis.
Merci tout le monde. Ouais, merci Alexis de t'être joint à nous.
Ouais, Alexis, peut-être on peut rappeler où on peut te retrouver sur ton blog et les réseaux sociaux.
Oui, bah le blog c'est fleu.jeuxvideo.wordpress.com et puis voilà, il y a pareil la page Facebook qui existe et aussi il y a un Twitter, donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour et à poser des questions, même parfois je lance quelques appels quand j'ai des idées, on va dire, comme par exemple le compte, et j'ai eu là, récemment un retour intéressant, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour participer à la réflexion sur tout ça.
D'accord, et bien on mettra tout ça dans les notes de l'émission et sur le site d'Adjito. Merci encore une fois à tous les deux. Chers auditeurs, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, que ce soit eh bien, sur le site Adjito ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser donc des commentaires sur iTunes, sur PodCloud. Vous pouvez aussi les laisser sur SoundCloud directement à l'endroit où vous souhaitez de l'épisode. Et puis, bien sûr, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Google+. Merci encore à tous les deux et on se retrouve bientôt pour de nouveaux numéros. Et d'ici là, eh bien, bon cours à tous.
Ouais, merci à tous. À bientôt.
Au revoir. You abuse the travel. You make beats. You dance. You keep on the ground. matter. You're